Bienvenue dans l'émission Fréquence follement curieuse sur Canal B. Nous sommes un groupuscule d'usagers de la psychiatrie. Notre but, réflexion sur les troubles psy, nos prises en charge, la stigmatisation, les discriminations et aussi des pistes pratiques sur le territoire rennais et dans l'Hexagone. Pour que chacun, chacune, puisse commencer leur voyage vers la compréhension de soi ou de l'autre et le fameux vivre avec. Nous rappelons que vous pouvez retrouver toutes nos précédentes émissions en replay sur canalb.fr, rubrique émissions et podcasts. L'émission du jour est consacrée à un thème qu'on associe souvent aux fous et folles, l'art. Aujourd'hui, même si le sujet est très vaste et mériterait au moins 42 épisodes, nous allons nous consacrer à l'art brut, autrement appelé l'art des fous, la création comme exutoire en parallèle avec le mythe de l'artiste torturé, en discussion avec Anne-Pauline, Pixies et moi-même. Aussi, à l'histoire et la fonction de l'art-thérapie avec Yann. Yann, Anne-Pauline, voulez nous dire quelques mots ?
Yann Planche, du coup, moi je suis blogueur journaliste, j'écris des articles sur la santé mentale à Rennes, qui parlent des structures, des événements, je fais des portraits aussi d'usagers, de professionnels, voilà, depuis 10 ans, et aussi je suis copilote usager du groupe de travail Participation Citoyenne, du Conseil Rennais en Santé Mentale. Alors, qu'est-ce que le Conseil Rennais en Santé Mentale ?
Mais oui, dis-nous, Yann. Dis-nous.
Même, tout le monde ne connaît pas. C'est une instance, c'est une plateforme de concertation pour les différents acteurs rennais en santé mentale. Et donc, dans le CRSM, il y a plusieurs GT. Moi, je fais partie donc, du GT Participation Citoyenne. Donc, on essaye. Le but, c'est vraiment d'avoir la conviction qu'en fait, on pourra améliorer les dispositifs qu'avec la participation active des usagers. Donc, le but, c'est comment les usagers participent plus, viennent aux réunions, prennent la parole, s'engagent, font des trucs. Et on a une jolie complémentarité qui marche très bien entre les usagers, les professionnels. Donc, les professionnels, ça peut être vraiment de tout, hein, sanitaire, médico-social. Et aussi l'entourage des personnes, les familles, par exemple. Et avec ces trois catégories, on essaye d'avoir des projets, d'améliorer les choses, de réfléchir des choses aussi concrètes sur la participation. Et juste... je veux pas mâcher que bientôt, on va le redire, ça va être les états généraux de la santé mentale à Rennes.
Trop
c'est
chouette.
C'est vraiment un événement inédit.
Complètement inédit.
Voilà, complètement inédit. Et du coup, ça va être un peu de voir un peu qu'est-ce qu'on sont les forces à Rennes, qu'est-ce qui marche moins bien. Et du coup, lors de cette... Donc, c'est du 20 au 30 novembre. Et le 21, ce sera toute une journée organisée de façon assez autonome des usagers. Donc, on va parler de l'accueil de la crise. On va parler du rétablissement. Et le soir, il y aura un vernissage sur une exposition des expressions des usagers autonomes. Mais je vous laisserai après développer ça. Voilà.
Et on ne l'a pas dit, mais pour cette émission, prenez vraiment vos carnets de notes et vos agendas, parce que des références en art et en événements, à Rennes, ou de façon générale, il y en aura plein. Et toi, Anne-Pauline, tu as quelques mots à dire ?
Oui, alors pour me présenter, donc Anne-Pauline Mabir, je suis artiste auteur, graphiste de formation, engagée et militante sur plusieurs thématiques un peu brûlantes en ce moment. Je suis bénévole dans des associations multiculturelles et je suis membre du groupe de travail Participation Citoyenne depuis 2019, suite à une rencontre pendant la semaine d'information sur la santé mentale avec différentes personnes de ce groupe. Donc voilà une présentation courte pour le moment. Et puis on va reparler effectivement de l'exposition dans le cadre des états généraux dont tu as évoqué l'existence, Yann.
Merci Anne-Pauline. Moi c'est Béryl, patiente en psychiatrie et désormais apparemment autrice et modèle photo. D'ailleurs, j'ai été sélectionnée pour cette fameuse exposition. Ouais, on adore le teasing à fréquence follement curieuse. Qui se nomme Nos voix résonnent et qui aura lieu du 21 au 28 novembre à l'hôtel Pasteur. Donc notez bien, Nos voix résonnent, ça va être génial. Je vais présenter principalement des photos et des poèmes et il y aura une série un petit peu de quatre tableaux qui expose ma folie et questionne la féminité, le rapport à l'autre, de façon générale, à la sexualité, au genre. Yann, d'ailleurs, on m'a soufflé dans l'oreillette que toi aussi, tu vas y participer.
Alors, ça va être l'occasion, en fait, de montrer aussi, donc, comme on a dit, les initiatives. Donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans, en fait, j'ai créé un site d'information qui en fait fait de l'information locale à Rennes sur les questions de santé mentale. Le but de mes articles, c'est vraiment de mieux faire connaître les différentes structures. Donc quand je dis structure, ça peut être les associations, mais ça peut être des structures aussi sanitaires. C'est aussi de rendre visibles les événements un peu qu'il y a à Rennes en santé mentale. Ça peut être, bien sûr, comme tous les ans, très important, la semaine d'information sur la santé mentale. Donc, je fais tous les ans un reportage dessus, c'est très riche. Mais ça peut être, par exemple, faire un reportage sur la fête du CHR, l'hôpital psychiatrique de Rennes. Donc voilà, différents événements. Je fais aussi des portraits d'usagers, portraits d'usagers et de professionnels, pour montrer un peu aussi comment un hobby, une passion peut aider à dépasser les troubles. J'ai des points de vue, donc je rentre aussi dans les grands débats du psychisme, de la prise en charge, de la psychiatrie, tout ça. Et moi, en fait, aussi, l'intérêt que j'essaye de faire aussi dans mon travail de reportage et d'explications, c'est expliquer l'utilité des prises en charge. Parce que souvent, en santé mentale, on croit que c'est juste occupationnel, on voit pas trop l'intérêt, on dit pourquoi faire ça. Et en fait, j'essaye avec les professionnels âgés d'expliquer qu'en fait, c'est thérapeutique. C'est vraiment, moi, vraiment, ma question générale, ma problématique pour mon site et pour la radio, tout ça, c'est en quoi une approche, une activité, une prise en charge peut être thérapeutique pour la personne. Donc c'est vraiment ma problématique. Voilà, et j'ai fait des études de sociologie, donc je m'inspire aussi de la sociologie. Je suis pas sociologue, mais je m'inspire un peu des méthodes, observations participantes, tout ça, entretien. Et donc, pour résumer, c'est vraiment un site aussi pour relier les initiatives et valoriser aussi tous ceux qui se battent, tous ceux qui inventent, qui réinventent, qui essaient de trouver des solutions. Ah, il n'y a pas d'argent, bah tant pis, on va trouver un partenariat avec une autre association ou avec la famille. Enfin, vraiment, à Rennes, j'ai rencontré plein de gens de grande valeur et je veux vraiment les valoriser, leur personne et leur travail pour... Parce que en fait, on peut aussi améliorer le dispositif en étant volontaire et en essayant d'innover dans les choses de la santé mentale.
Bah, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que effectivement, les activités, que ce soit l'art ou la recherche ou la radio, ce qu'on veut, bah, en fait, ça fait entièrement partie du rétablissement. Bien parce sûr. Que les gens, souvent, ils s'attendent à ce que... Enfin là, je vais utiliser des mots un peu crus, mais le zinzin, la zinzine de la famille là, ou de la bande de potes, on lui donne des cachets, cachetons, et puis fini, quoi, c'est bon. Mais en fait, non. On est des humains avant tout, et on a besoin d'occupation et de se sentir exister. Et je crois d'ailleurs que tu vas nous en parler tout à l'heure avec l'art-thérapie. Ouais. En tout cas, tu peux nous redonner l'adresse de ton site ? Parce que je crois que tu ne l'as pas donné.
Ouais, l'adresse, c'est infopsyrennes.org.
Ok, bah, merci beaucoup.
Bah, merci.
et j'ai hâte de redécouvrir ton travail. Et Anne-Pauline, c'est dingue, toi aussi tu vas exposer tes œuvres. Est-ce que tu veux nous parler brièvement du projet ? On pourra y revenir d'ailleurs par la suite, pendant la table ronde.
Pour essayer de présenter brièvement le projet de l'exposition « Nos voix résonnent » dans le cadre des États généraux en novembre, il y a d'abord eu, à l'initiative du groupe de travail « Participation citoyenne », tout un grand travail avec la rédaction d'abord d'un appel à participation. Et cet appel à participation était destiné à tous les usagers, usagères en psychiatrie, qui se sentent concernés par la souffrance psychique et ou l'isolement social. L'invitation était de mettre en valeur leur pratique artistique ou leur initiative liée à la santé mentale. Donc tout ce qui est forme d'expression, il y aura vraiment une variété très large de productions artistiques. Moi personnellement, du coup, j'y présenterai effectivement mon travail qui se présente sous différentes formes, mais la principale forme d'expression est le dessin. Et aussi l'écriture. Voilà, on développera tout à l'heure les points d'inspiration dans notre interview tous ensemble. Et justement, je crois que Pixis va aussi présenter ses œuvres dans le cadre de cette exposition. Pixis, est-ce que tu veux nous dire quelques mots ?
Salut à tous, moi c'est Pixis. Qu'est-ce que je pourrais bien dire ? Ça va être tellement... C'est tellement incroyable en vrai ce qui va se passer en novembre. Pour ça, comme l'a dit Beryl, aka Opal, parce que voilà, elle participe aussi. Hein, décidément, en fait, on s'est tous donné réunion pour faire
c'est
une
ça.
Pub sur cette expo, en fait. Mais non, en vrai, ça va être. Après, j'ai pas non plus envie de spoiler un peu ce qui va y avoir, mais venez. Et ça va être trop bien en fait.
Mais parle-nous un peu de ton travail justement, tease-nous un petit peu.
Là ça va être principalement du dessin pour changer et du noir et blanc principalement et des nouveautés et quelques classiques on va dire de publications dessins que les gens connaissent déjà mais
moi je pourrais rajouter ayant vu tes dessins qu'il y a je sais pas lesquels tu vas présenter. Je n'ai pas cette information, mais je sais qu'il y a beaucoup de problématiques autour de la société, un petit peu militantisme. Il y a aussi beaucoup de choses par rapport au niveau du mal-être, de la consommation de substances, de l'anxiété. Il y a beaucoup de choses comme ça.
Et donc oui, effectivement, on précise que notre amie et militante Sarah Joly, qui a aussi été à la genèse de cette émission il y a 2 ans, y présentera ses œuvres qui sont multiples, des œuvres visuelles, des œuvres d'écriture. Elle est la commissaire d'exposition pour Nos Voix Résonnent et s'est énormément mobilisée pour que celle-ci puisse avoir lieu.
Merci Sarah. Et je vous invite vivement à lire son texte sur le rétablissement sur unesibellefolie.com. N'hésitez pas à noter dans votre agenda l'exposition Nos Voix Résonnent du 21 au 28 novembre à l'Hôtel Pasteur pour nous découvrir sous toutes nos facettes. Sans plus attendre, encore un peu de zinzinerie avec la bande-annonce du documentaire La Folie Art Brut, réalisé par Simon Bach ou Bacchès, je ne sais pas, pour Arte en 2020.
Choquant, primitif, infantile, obsessionnel, dérangeant, angoissant, émouvant. On a tout dit à propos de l'art brut. On l'a appelé art des fous ou art singulier, puis outsider art pour le monde anglo-saxon. Mais de quoi parle-t-on exactement ? L'art brut, c'est un ensemble d'œuvres hétéroclites, produites par des patients psychiatriques, des mineurs de fond, des plombiers ou des spirites, des créateurs isolés, autodidactes, en marge de la société.
Cet extrait provenait de la bande-annonce du documentaire « La folie art brut ». Je vous conseille vivement de le regarder. Vous pouvez retrouver « La folie art brut » en VOD sur Arte Boutique et sur YouTube. Je vous assure qu'il est intéressant et ne fait aucunement peur, même si la musique d'intro est un peu digne d'un film d'horreur, on y découvre des paradoxes. Quand un artiste dit « fou », c'est qu'il fait de l'art. Ce n'est pas de l'art brut. Par contre, si compulsivement il produit des trucs en étant totalement autodidacte, là, le même artiste, c'est de l'art brut.
Oui, et effectivement, là encore, c'est comme un prétexte pour toujours mettre les artistes, entre guillemets, fous, de côté.
Ouais, surtout que des artistes fous, l'histoire de l'art, elle en a connu plein. Comme le tristement célèbre, et j'ai envie de dire un peu la pop star des artistes fous dans la peinture, l'histoire de Vincent Van Gogh, qui n'est pas classé art brut. Je recommande d'ailleurs vivement le drame At Eternity's Gate de Julian Schnabel, réalisé en 2018 avec, comme Van Gogh, William Dafoe, dont vous avez sûrement déjà vu la tête dans Spider-Man No Way Home ou American Psycho ou le très récent Beetlejuice, Beetlejuice.
Tell me, why do you say you're a painter? Because I love painting, I have to paint. I've always been a painter, that I know.
A born painter?
Yes.
How do you know?
Because I can't do anything else, and believe me, I've tried.
I think of myself as an exile.
You're Vincent?
Yes.
Sales brother. I'm Paul Gauguin.
We have to start a revolution, do you understand?
We have to create a new vision, a new way of painting.
I spent all my life alone in a room.
I'd like to find a new light for paintings that we haven't yet seen.
There's something inside me, I don't know what it is. What I see, nobody else sees it.
You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control.
I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason.
C'était la bande-annonce de At Eternity's Gate, que je vous conseille vraiment de regarder. Et Van Gogh y est peint comme un artiste mis à l'écart, incompris et violenté. At Eternity's Gate expose aussi la vision d'un artiste singulier. Au visionnage, j'avais vraiment l'impression d'avoir les yeux de Van Gogh. Il a d'ailleurs été moult fois hospitalisé et il était beaucoup plus productif quand il allait mieux. De quoi secouer d'ailleurs ce mythe de l'artiste qui a besoin d'être torturé pour créer. Anne-Pauline, Pixies, tous deux artistes plastiques, est-ce que vous voulez bien qu'on cause du rapport entre émotion et création ?
Allez, c'est parti.
C'est parti. Merci beaucoup. Pour commencer, le rôle de vos émotions pour créer. Est-ce qu'il y en a un ? Si oui, lequel ?
Ça influe énormément. Mmh. C'est-à-dire que si les émotions sont basses, moi j'irai plutôt vers l'écriture. Une sorte d'écriture journal.
Pour décharger un petit peu.
Voilà, ça décharge avec l'écriture. Quand les émotions sont hautes au sens de positive, là, c'est des phases qui sont très, très prolifiques, qui sont inarrêtables. Et par contre, les phases d'émotions avec beaucoup de tristesse ou des sensations d'injustice, là, pour le coup, on a la sensation de devoir tout réapprendre à zéro.
Du coup, je vais d'abord me tourner vers Pixies. Est-ce que tu as constaté une différence dans tes créations quand tu es triste ou quand tu es heureux, quand ton humeur est plus basse ou plus
oui.
haute ?
Même dans mon état tout court, quand je suis en rétablissement et que je dessine, ça n'a rien à voir que quand je suis le Pixies qui va pas bien et qui dessine, quoi. C'est le jour et la nuit.
Mais c'est quoi les différences du coup que tu remarques ?
C'est-à-dire que par exemple, quand je vais être en rétablissement, en mode voilà, le mémoire, voilà, n'importe quoi. Oui, je suis un ordinateur central, super. Voilà, quand ça va pas aller. Enfin, merde. Quand je vais être en rétablissement, moi, d'essayer d'aller bien et tout, bah, ça me demandait par contre beaucoup plus d'énergie pour essayer de dessiner et tout. Parce que je vais être là, ok, je suis à 100% moi-même, 100% bien, on va essayer de dessiner. Ça me prend plus de temps, j'en fais moins du coup, parce que du coup, par souci d'énergie. Mais par contre, quand c'est l'inverse, quand je vais pas bien, je peux tout aussi dessiner comme pas du tout, c'est un peu la roulette russe. Il y a un peu cette chose-là. Voilà.
Est-ce que tu dirais, du coup, vu que tu as parlé un petit peu de rétablissement, d'ailleurs, aussi, chose importante à conscientiser, c'est que dans le rétablissement, même les moments où tu te casses la gueule de l'escalier, où tu es tout en bas, en fait, ça fait aussi partie de ton chemin vers le rétablissement.
Oui,
le rétablissement, c'est pas une... C'est pas juste tu montes trois marches et les trois marches elles sont acquises et finito et tu vas continuer de marcher, c'est il y a des allers-retours. Mais en fait, de chaque période où t'es allé à nouveau mal, où t'as connu une difficulté, je sais pas quel mot utiliser parce que ça dépend vraiment d'une personne à une autre, en fait ça va quand même te servir en tant que ressource. Mais le rétablissement, c'est pas juste dire oh bah je vais bien, je vais moins bien, bah ça veut dire je me rétablis plus. Non, ça fait vraiment, vraiment partie de la chose. Et du coup, ce dont tu parlais, je me posais la question, est-ce que du coup, le dessin, pour toi, c'est quelque chose d'un petit peu thérapeutique ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien ou non, pas du tout ?
En vrai, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que... il y a quand même une partie où ça va pouvoir me permettre de canaliser, des sujets de société qui m'agacent et je vais me dire, ok, je vais essayer de dessiner, comme ça, moi, ça va me...
Évacuer.
Voilà, ça va m'évacuer et en même temps, je vais pouvoir en parler et le partager aux gens.
Ouais, c'est peut-être un moyen, du coup, quand tu rumines, au moins
aussi,
c'est posé
ouais.
quelque part c'est classé.
Oui.
Je sais que je peux avoir un petit peu ça aussi avec, avec l'écriture. Bon, parfois j'écris un petit peu sur le même thème pendant 6 mois, mais au moins il y a un truc où je vomis. Enfin, j'ai un peu ce rapport-là avec l'écriture où je vomis ce qui grogne en moi et ce qui prend de l'espace en moi.
Si je m'exprime avec mes propres mots et que je sors du blabla qu'on a essayé de m'apprendre de dire à l'école des beaux-arts, oui, ce texte est très bizarre. Et est-ce qu'il est compréhensible? J'en sais rien.
Bah, peut-être compréhensible pas les personnes des beaux-arts, si c'est le blabla des beaux-arts que...
Bah, c'est passé, écoute, c'est quand même assez, assez cocasse parce que pendant 2 ans, donc, j'étais complètement sans boussole, à part voilà, avec quelques amis qui me connaissent bien. Mais dans le corps professoral, j'étais complètement lâchée dans la nature. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la soutenance en 2012, Dieu merci, dans le jury, on avait enfin des personnes qui avaient compris de quoi je voulais parler. Et qui avait compris qu'on pouvait mélanger en fait des outils de graphisme et d'édition avec des installations qui sont classées art avec un grand A. J'avais la chance d'avoir un jury avec un peintre et une personne qui fait aussi de l'auto-édition avec de la collection d'images et de photographies anciennes. Où pour la première fois en 2 ans, on m'a posé les bonnes questions et ça s'est fini par une mention incroyable. Enfin, c'est juste
trop bien. T'as eu la chance de tomber sur des oreilles attentives qui ne t'ont pas dit que le courant duquel tu te rapprochais était périmé de façon complètement arbitraire. Je vais rebondir en vous demandant qu'est-ce que vous pensez, vous en avez déjà un petit peu parlé, du mythe de l'artiste torturé.
C'est le chaos, quoi. C'est, y a rien qui va. Le
tout est chaos.
Exactement, merci Mylène.
À côté.
Et ouais, quand c'est ouais, vraiment quand tout est chaos et ce truc de... bah, ça colle un peu à l'image, ouais. Je ne suis que noirceur, mais d'un côté, bon, essayons d'aller de l'avant, de changer cette image. Parce que bon, sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein, quand on regarde ce qu'il y a à l'extérieur de ce merveilleux pays qu'est la France. Hein, voilà. Mais bon, bon, c'est une réflexion. Hein.
Bientôt, tous les Français sous Prozac. Anne-Pauline.
J'ai pensé tout de suite à un peintre français qui s'appelle Gérard Garoust et je vous renverrai à son petit livre qui s'appelle L'Intranquille, autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou. Je vais vous citer peut-être juste une petite phrase de la page 72. Devenir peintre, c'était finalement inverser la vapeur, faire des instants rares de mon enfance l'essentiel de mes jours. Et de mon éducation, un dangereux mensonge. Point. Après, voilà, tout est discutable. Je ne connais pas. Je sais que sa vie a été mise à l'écran. Je ne connais pas les détails, mais je sais que ses peintures sont vraiment très intéressantes.
Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous passer l'extrait d'une vidéo YouTube qui s'appelle Le problème du Club des 27. Donc, le Club des 27 dans la musique, où apparemment toutes les rock stars meurent à 27 ans. Et du coup, cette vidéo, Le problème du Club des 27, par Lovi, donc une youtubeuse, L-O-V-I, va un petit peu y répondre et je vous recommande de la regarder en entier.
C'est pas que dans la musique, cette image se retrouve vraiment dans l'art de manière plus générale. Un bon exemple de ça, c'est Van Gogh. Au fil des années, son histoire est devenue une sorte de mythe, de représentation de l'art. Un artiste aux tendances dépressives, profondément troublé, qui peignait ses œuvres dans la douleur. Le Club des 27 renforce cette image d'artiste maudit et donne l'impression au public, et même aux artistes de l'industrie musicale, que la douleur est nécessaire à la création d'œuvres magnifiques. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, bah c'est pas le cas. En vérité, penser que la dégradation de la santé mentale est favorable, voire nécessaire à la création artistique, c'est manquer profondément de connaissances sur ce que sont les troubles mentaux. Un artiste du Guardian, intitulé « La création musicale et le mythe du génie torturé », résume très bien l'idée. L'idée selon laquelle la maladie mentale est une force créatrice est, pour la plupart des personnes qui en souffrent, un mythe. Le manque chronique d'estime de soi causé par la maladie mentale, l'effet engourdissant des antidépresseurs et l'emprise de l'anxiété sur un artiste, artistes qui semblent avoir la vie facile sont des obstacles qui peuvent empêcher un musicien de faire son travail. Pour m'appuyer de nouveau sur une étude scientifique, trois chercheurs allemands ont démontré que globalement, les troubles sont néfastes pour la créativité. Il est évidemment très difficile de quantifier ce genre de choses parce que la créativité est difficilement mesurable et que les processus de création varient très fortement d'une personne à une autre. Il faut donc prendre ces résultats avec des pincettes, mais le constat de fond reste le même. Les troubles mentaux ne sont dans leur globalité pas des aides à la création, mais plutôt de sévères freins à celle-ci. Pour reprendre l'exemple de Van Gogh, la période la plus productive de sa carrière, durant laquelle il a peint 150 tableaux en un an, dont des œuvres comme le très célèbre Starry Night, c'est la période suivant un traitement de sa santé mentale.
Donc c'était un extrait de la vidéo « Le problème du club des 27 de Lovi » et pour un petit peu temporiser ses propos, je dirais qu'en fait, les troubles ne rendent pas moins productifs, mais les périodes de gros down, en tout cas, n'aident pas. Et puis j'ai envie de dire, par rapport au club des 27, quand on est mort, on produit plus d'art. Donc est-ce qu'être un artiste torturé, ça permet de créer plus ? Ben, j'ai envie de dire non. Voilà, c'est mon avis personnel, mais en tout cas, sa vidéo est très intéressante et surtout, justement, elle s'appuie sur le travail de plusieurs chercheurs. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce point de vue-là. J'allais vous demander, comment est-ce que vous ressentez la création ? Est-ce que c'est plus un besoin ? Est-ce que c'est plus une envie ? Est-ce que c'est tout autre chose, Anne-Pauline ?
En tout cas, aujourd'hui, étant sur un parcours de rétablissement depuis 4 ans environ ou plus, c'est toujours entre les deux, une envie quand ça s'impose à moi de manière claire et un besoin quand il faut effectivement décharger des douleurs, mais des douleurs qui sont quand même pour moi personnellement toujours liées à une injustice globale. Donc en tant qu'artiste engagé, moi je réalise de plus en plus que c'est le contexte global qui me pousse ou pas à créer des choses. Et les slogans ou les petites phrases que j'ai déjà mis en affiche il y a longtemps, quand j'étais encore trop naïve pour croire que on pourrait, nous les poètes, prendre le pouvoir.
Ouh, révolution.
Là, on est en gros doute, hein, et je le vois dans l'humeur de beaucoup de mes camarades, que voilà, on est vraiment dans des entre-deux là en ce moment, mais il faut continuer avec des mots, quoi. Juste, moi, je repense et je vous le donne, le utopiste debout, qui a été écrit par Gérard Paris-Clavel ou Vincent Perrottet à l'époque des graphistes associés. Ça, on est dans les années 80-90. On est sur des collectifs de graphistes qui ont fait des images qui sont pas signées, qui sont juste à destination d'être dans les manifs. Forme des luttes, c'est aussi des collectifs parisiens qui reçoivent un max d'affiches et de créations de graphistes ou d'artistes qui disent stop. Ça, il faut les télécharger. Je vous invite à vérifier sur les collectifs L'Abuse et les collectifs Forme des luttes pour avoir accès à tous ces visuels-là, quoi, qui font quand même du bien.
Et toi, Pixies, est-ce que tu sens de la pression pour créer ? Pour être productif.
Moi, direct, j'ai pensé au réseau. Enfin, il y a un truc où, en fait, si déjà tu montres ton travail sur n'importe quel réseau social et que les gens commencent à regarder, tu vas te dire, bon, est-ce que je m'en fous d'eux et juste, je publie des choses ? Ou alors, est-ce que je vais essayer de faire plus ? Dans le sens, essayer d'avoir des interactions avec eux, de créer une communauté, une fanbase. Parce que ça aussi, ça demande de l'énergie. Et du coup, il y a un peu un truc, et après, c'est un peu la course à se comparer encore aux autres.
À l'audience.
Voilà, c'est ça, à l'audience, ou à d'autres gens qui font un contenu différent du tien, et tu te dis, ah, mais j'aimerais tellement faire ça, alors que c'est à l'opposé de ce que tu fais, mais juste, il y a plus d'abonnés, quoi.
Ouais, je vois.
Mais même aussi, ce truc aussi, Anne-Pauline, tu disais ça... On est encore aussi inspiré d'une certaine manière. Enfin, on y revient de force à s'inspirer aussi de ce qui se passe de fort dans l'actualité, dans le monde, dans notre merveilleux pays.
Cocorico.
Voilà, Cocorico. Mais c'est un peu aussi la folie, ce truc de revenir toujours au même schéma, refaire tout le temps la même chose, s'inspirer.
C'est vrai que ça peut être un truc de zinzin.
S'inspirer de... que des choses glauques. Moi, je sais que ce qui m'inspire dans l'actualité, c'est que des choses très fortes. Genre, par exemple, je sais pas, Gaza, c'est un truc qui... il faut en parler. Mais sauf qu'il y a tellement d'autres endroits dans le monde où c'est la merde aussi, enfin... quelles informations, comment les choisir, tout ça, bon, ça.
Et puis du coup, ce que tu veux dire un petit peu, c'est que tu ressens une pression sur j'ai envie de parler de beaucoup de choses,
ouais,
mais de
tout,
quoi je parle, c'est et ça. En fait je peux pas prioriser, enfin il y a pas de, on peut pas faire d'échelle de priorité dans l'inhumanité et dans la cruauté, et donc ça peut être compliqué effectivement de se dire qu'est-ce que je choisis entre parler de ce qui se passe au Congo. Parler de ce qui se passe en Palestine, parler de ce qui se passe maintenant au Liban.
C'est ça.
L'Afghanistan, de quoi je parle ?
Puis il y a aussi ce choix de parler de l'actualité de ce qui se passe dans l'endroit où je vis et de ce qui se passe à l'extérieur aussi. Enfin, il y a un truc un peu où, selon le besoin et l'envie, on soupèse, quoi.
Voilà, parfois notre production, elle est personnelle, intime, et parfois elle rejoint des grandes thématiques universelles. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment toujours un va-et-vient entre les deux.
Bah, sûrement que créer, c'est un petit peu ça, parce qu'il y a ce truc entre... quand je parlais de dégueuler à l'écrit tout à l'heure, ou en tout cas de vouloir s'exprimer, et ce truc du vouloir potentiellement contribuer à quelque chose dans l'humanité, que ce soit faire, soit divertir, faire rire, apporter de la joie, faire prendre conscience, provoquer, agacer, enfin, toute la palette d'émotions. Je me demandais, parce que dans ton discours, par exemple, Pixies, et même dans le tien, Pauline, il y avait un petit peu, j'ai l'impression, une certaine, parfois, lassitude de ce qui se passe dans le monde, ou de l'élite. Il y a deux discours un petit peu différents. Oui. Pourquoi créer encore aujourd'hui ?
Déjà, j'avais aussi une astuce pour essayer de retrouver la création si elle s'en va. Pour moi, personnellement, c'était d'essayer de faire comme les psychiatres nous disent, de décentrer, donc mettre en perspective, c'est-à-dire vous avez des problématiques ultra personnelles et intimes qui vous envahissent. Si vous décentrez, vous vous rendez compte que c'est problématiques ne sont pas partagées que par vous, mais par l'humanité. Alors, peu importe même le pays et la culture. Donc pourquoi créer encore ? Pour moi, personnellement, c'est vraiment pour comprendre et continuer d'essayer de comprendre, parce que ce rapport à l'injustice, ça, c'est quand même assez frappant chez pas mal d'artistes quand ils sont engagés, que c'est ça qui rend le plus épidermique, etc. Donc moi, mes astuces, soit à la question qu'est-ce qui m'a amené à ça à l'origine, la réponse est la curiosité de tout et la recherche de réponses aux questions métaphysiques que je me posais quand j'étais enfant et que personne n'était foutu de me répondre correctement, en fait. Donc, une fois que j'ai pu avoir en main quelques bouquins, qu'on a lu des trucs en philo au collège, etc., moi, mon sujet, c'est la quête des origines de la vie sur Terre et comment l'espèce humaine, elle, a fait n'importe quoi.
Merci de vous être ouvert. Merci beaucoup Pixies, merci beaucoup Anne-Pauline. On va retrouver votre travail pendant l'exposition Nos voix résonnent du 21 au 28 novembre à l'Hôtel Pasteur. Nous allons maintenant écouter Sea of Dreams du groupe new-yorkais Oberhofer. Cette chanson fait partie de la bande originale de BoJack Horseman. Allez la voir.
Take your word.
êtes bien sur Canal B dans l'émission Fréquence follement curieuse. Pour rappel, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur canalb.fr. Je vais vous faire un point actualité rennaise sur l'art et la santé mentale. À ce sujet, le spectacle La Brande d'Alice Vanier est joué au Théâtre National de Bretagne du 20 au 23 novembre. La metteuse en scène y explorera l'aventure de la psychothérapie contemporaine et elle va interroger notre rapport à la folie. Alice Vanier est d'ailleurs invitée pour une rencontre le 15 novembre au Musée des Beaux-Arts, modérée par la dramaturge et chercheuse Leila Adam. Le débat concernera la fameuse clinique Laborde et le modèle d'inclusion que cette clinique promouvoit. Pour venir, c'est gratuit. Il suffit juste de réserver sa place sur le site du TNB ou d'aller directement au théâtre. Quant à La Brande, malheureusement, je n'ai pas pu me procurer de place. Je suis sur liste d'attente. Si le personnel du TNB m'entend, je veux bien pouvoir réserver une place, s'il vous plaît.
La clinique de Laborde dans le Loir-et-Cher a permis à la psychothérapie institutionnelle de se développer. C'est-à-dire un lieu où soignants et patients prennent en charge les questions matérielles et décisionnelles concernant la clinique. En fait, le patient devient actif et il prend en main ses affaires.
Merci Yann pour ces précisions. Aussi, la compagnie des Chiens de Navarre joue La vie est une fête du 10 au 14 décembre, toujours au Théâtre National de Bretagne. Pour cette pièce, j'ai pu trouver un billet. Elle va se plonger avec un humour grinçant dans les urgences psychiatriques actuelles, le lien entre la folie et la norme. La vie est une fête a l'air plutôt déjantée, tout en questionnant la montée de l'extrême droite. J'ai vraiment hâte au 10 décembre.
Oui, le TNB nous gâte cet hiver.
Je suis bien d'accord. D'ailleurs, pour les fervents d'histoire amateurs de psychiatrie, Titicut Follies, réalisé par le célèbre documentariste américain Frédéric Wiseman, en 1967, est diffusé au Ciné TNB, le vendredi 8 novembre à 20h45. Le sujet ? Montrer la vie quotidienne des patients détenus dans l'unité carcérale de l'hôpital de Bridgewater au Massachusetts. Attention, le documentaire expose la violence des soignants, et ce, dans les années 60, donc je pense qu'il faudra s'accrocher. Nous allons maintenant écouter Insomnia, du jeune artiste gallois, Rennes.
Of introspection without any destination, ruminating thoughts in constant rotation. Is this what it means to be conscious? To constantly question our conscious? Despondently fall on my back horizontally. Under my bed there are monsters that visit me when I try to sleep. They're those thoughts that play on repeat. They say you're Ren. You're always gonna suffer, Ren. You're always gonna suffer. And I boomerang between optimism and pessimism so much that my sanctuary could be a prison. What blinds me could give me vision, and what finds me is this indecision of what to do with these questions. Is there purpose? Is there God? And if there is God, then God, why do I feel like this, God? Are we not sculpted in your image? And if so, do you feel that pain? Unrelinquishing pain, like my brain got put under a Bunsen burner and torched until the membranes became flame. I hate not sleeping. I like the weekend because other people don't sleep either. Mindless TV shows irritate me, but they're my messiah, because I can become brain dead, wasted, lost in trails of dry saliva.
But I'm a survivor, a child of destiny.
But this night has been testing me, question the mess that's progressing, undressing me, stripping me naked and stuffing the stress in me. I used to use drinking as a way to stop thinking that my problems were drinking, made me feel like I was sinking. So I dried up my drinking and I couldn't sleep a wink. And now I'm thinking, now I'm thinking, now I'm thinking, now I'm thinking about nothing. Fucking nothing and everything and nothing. I hate not sleeping. So I lie here, trying to count sheep and their bleatings, repeating. My bleeding heart is beating and beating, eating. My sleep is depleting, pleading for healing. It's fleeting, longing for sleep is so deep, it's peaking. I weep in these sheets, it's doubling, doubly troubled. It's ugly, bleak, it's so bleak. And I lost my mind on a line. I hate not sleeping. I hate not sleeping.
Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous discutons art et folie dans l'émission Fréquence follement curieuse sur Canal B. Yann, qui est avec nous, a réalisé quelques recherches sur l'art-thérapie.
À quoi sert l'art ? Est-ce qu'il faut être fou pour être un artiste ? Et surtout, l'art peut-il être thérapeutique ? Nous, les usagers rebelles, nous ne voulons pas consommer des médicaments et des thérapies. Même si on nous dit qu'il faut être un grand professeur de médecine ou un grand psychologue pour comprendre et expliquer toutes les subtilités de l'action thérapeutique, nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons, avec nos propres bagages intellectuels et surtout avec notre curiosité insatiable, comprendre par nous-mêmes. Notre problématique générale pourrait être en quoi une approche, une prise en charge ou une activité peut être thérapeutique pour une personne. Donc l'art-thérapie, comme les autres psychothérapies, psychanalyse, TCC, la Gestalt, l'analyse transactionnelle, etc., nous doit des comptes. Les psychothérapies nous doivent des comptes. Même si nous n'avons pas la prétention de mieux comprendre que les autres, nos souffrances psychiques exigent des réponses et des lumières. Alors, qu'en est-il pour l'art-thérapie ? Que ce soit dans la dépression ou dans le symptôme négatif de la psychose, on peut vite se retrouver dans des états de repli sur soi avec une totale annihilation du désir. L'élan vital n'est plus là, il fait place à une tristesse et un trop-plein de vide. Alors, pour retrouver du plaisir et un peu d'appétence, on peut prendre un antidépresseur. Mais on peut aussi faire appel aux thérapies non médicamenteuses. L'une d'elles, donc l'art-thérapie, n'engendre aucun effet indésirable, donc pas de prise de foie, pas de sédation, etc. Au pire, elle pourra développer chez vous une nouvelle passion.
C'est vrai, au moins, avec l'art-thérapie, nous n'avons pas besoin de médicaments dits « correcteurs » pour nos intestins ou les tremblements, etc.
Alors Yann, d'où vient l'art-thérapie ?
Depuis toujours, sans doute, l'être humain, en voulant s'adapter à l'évolution de son environnement, à créer des choses qui n'existaient pas avant. Avec des techniques et des savoir-faire, il a su transformer ses frustrations et ses angoisses dans des expressions artistiques. Une sorte de transcendance mystérieuse. Mais revenons à notre époque, notre monde contemporain. On peut dire que c'est après la Seconde Guerre mondiale, période d'effervescence du désialinisme et essor de la psychothérapie institutionnelle, que la psychiatrie a vraiment rencontré l'art. Une minorité agissante de psychiatres ne veut plus réduire le patient à un être maléfique qu'il faudrait redresser par la discipline et la morale. Elle voit plutôt le malade comme un porteur de trauma qui doit dépasser ses failles et les conflits de son développement. Même le plus psychotique des psychotiques a quelque chose à dire et peut être pris en charge par la parole. Puis, dans les années 90, avec l'offensive contre la psychanalyse, les nouvelles psychothérapies ont le vent en poupe. L'art-thérapie, avec son côté New Age, rentre de plus en plus dans les établissements psychiatriques. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs de la santé mentale pensent que l'art-thérapie a toute sa place dans l'arsenal des différentes psychothérapies.
Donc, pour toi, du coup, en quoi l'art-thérapie est-elle utile ?
Alors voilà, c'est vraiment la question centrale. Donc revenons au mécanisme vertueux de l'art-thérapie. L'art n'est pas juste une expression singulière. Elle obéit aussi à des lois de l'harmonie. Par exemple, en musique, si je réussis, avec l'aide d'un professionnel, à jouer des accords, cela engendre un effet esthétique, agréable et voluptueux. Et surtout, cela me donne envie de continuer. Donc le désir est amorcé. Et avec des encouragements et de la technique, je peux arrêter de m'obséder sur des choses négatives. Ainsi, je peux rompre la spirale, je ne vais pas bien, donc je ne fais rien, et comme je ne fais rien, je vais encore plus mal. Donc le désir. Et même si toutes les personnes qui s'exercent à l'art-thérapie ne vont pas devenir des artistes, on constate que rentrer dans un art, c'est un véritable exécutoire. L'autre grand intérêt de l'art-thérapie, c'est qu'elle excelle dans l'analyse du psychisme de la personne. En effet, elle ajoute à la prise en charge de la parole, comme notamment en psychanalyse, la considération pour l'expression artistique. En plus de mettre des mots sur les mots, la formule célèbre, les mots MOTS sur les mots MAUX, Elle met des images, des sons, des gestes sur les troubles. Et cela peut être aussi un accès à l'inconscient et à tous ces refoulements, parfois bien supérieurs que la simple analyse du langage. Par exemple, faire des dessins, ce n'est pas réservé aux enfants, qui seraient trop jeunes pour verbaliser. Non, l'expression artistique, notamment les arts plastiques, montre des choses que la simple parole n'exprimera jamais. D'ailleurs, le transfert, c'est-à-dire toutes les projections inconscientes que l'on projette sur le thérapeute, prend des chemins différents puisqu'il quitte les références et les codes langagiers. Ainsi, sortir de soi, se laisser aller à une autre connaissance de soi, permet, grâce aux médias artistiques, de s'attaquer différemment à l'inconscient par la dimension qui ne peut pas être verbalisée.
Est-ce que, au-delà de l'expression, tu repères un autre point intéressant dans l'art-thérapie ?
Oui, en outre, l'art-thérapie permet de se retrouver confiance et estime de soi. Si j'ai réussi à réaliser une œuvre, c'est que je ne suis pas si nul que ça. Grâce à la bienveillance et à la technicité de l'art-thérapeute, je suis guidé vers l'assonance, ce qui me procure une satisfaction existentielle. Ma créativité et son résultat prouvent mon existence. S'il est accompagné d'une reconnaissance sociale, du professionnel, des autres participants, des amis, de la famille, il devient thérapeutique. En effet, un des gros travaux de l'art-thérapeute, c'est de convaincre et de persuader la personne qu'elle est capable, avec de l'aide, de réaliser quelque chose qui a de la valeur. En effet, en art-thérapie, le but n'est pas de créer quelque chose d'extraordinaire ou de recevable, mais de créer quelque chose qui vient de soi. Pas besoin de bien savoir faire ou de maîtriser des techniques compliquées. En effet, l'art n'est pas réservé à une élite. Nous avons tous besoin de nous exprimer. Et le travail du thérapeute, quelle que soit la qualité de la production, c'est de reconnaître la singularité de l'expression pour s'en servir comme outil thérapeutique.
Je suis bien d'accord, et c'est très important pour chaque humain de se sentir capable.
Même si l'art-thérapie n'est pas suffisante pour juguler une maladie, entre parenthèses, une maladie psychique, elle concourt, avec d'autres prises en charge, à modifier la perception de soi en renarcissant sa personne. Tout le monde n'est pas sensible à l'art. Par exemple, certains sublimeront leur souffrance par le sport. À chacun de trouver l'activité qui soit un dépassement de ses troubles. Mais pour vous convaincre de tout l'intérêt de l'art-thérapie, les mots ne suffisent pas. Il faut vraiment vivre l'expérience artistique. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut mieux fricoter avec l'art que de se bourrer de benzodiazépines.
Et oui, ne finissez pas dans une baignoire de Prozac et de Xanax et de sexe et d'opiacés comme Baudelaire. Non, il n'a pas fini dans une bonne... C'est faux. Mais en tout cas, merci beaucoup Yann pour ce billet d'humeur émouvant sur l'art-thérapie et pour tes apports historiques que tu as apportés. Nous allons maintenant écouter Don't Hate Me de la chanteuse anglaise Lola Young qui a reçu un diagnostic de trouble schizoaffectif qui serait un mix entre bipolarité et schizophrénie. Lola Young a une voix rauque, envoûtante, et de la rage du franc-parler en stock. C'est parti pour Don't Hate Me.
Boring. Well, that's rich coming from you.
C'était Beryl pour l'émission Fréquence follement curieuse sur Canal B. J'étais aujourd'hui en compagnie de Pix, Anne-Pauline, Yann. Vous pouvez retrouver nos travaux pendant l'exposition Nos voix résonnent du 21 au 28 novembre à l'Hôtel Pasteur à Rennes. On n'oublie pas non plus les états généraux en santé mentale à Rennes dont nous avions parlé dans notre précédente émission. Rejoignez-nous du 20 au 30 novembre pour cet événement inédit. Notre thème du jour était art et folie, au pluriel. Nous avons discuté art brut, mythe de l'artiste torturé et art comme exutoire, et aussi art-thérapie. Vous pouvez retrouver toutes nos ressources en description sur le site canalb.fr ainsi que nos précédents podcasts. Si vous avez trop le blues et qu'écrire, peindre, dessiner ou déchirer du papier ne suffit pas, n'oubliez pas qu'il existe le numéro 3114 en cas de pensée suicidaire ou les urgences psychiatriques. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Sur ce, prenez soin de vous et passez un beau début d'automne avec vos meilleures tisanes. On se retrouve en décembre.